littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Transféminisation, l'avenir de l'humain est-elle une fiction ? Morgan Stankiewicz, Valérie Mangin, Jeanne Debatz, Anne-Sophie De Vries. Modération, Vincent Bontemps.
Bonjour. Donc je m'appelle Vincent Bontemps, je suis philosophe des sciences et des techniques et je travaille au CEA. Et je suis très content de vous accueillir dans cette salle, j'étais jamais venu. J'ai l'impression que vous êtes bien assis et dans de bonnes conditions pour assister et participer à ce débat. Et j'ai le grand plaisir donc de vous présenter une table ronde dont le titre est « Transféminisation ». Alors moi j'avais écrit « L'avenir de l'homme est-elle une illusion ?» Là je vois que c'est « L'avenir de l'humain est-elle une fiction ?» Non, c'est mieux d'ailleurs une fiction, mais c'était « L'homme et l'humain ». Bon, je voulais faire référence à la phrase quand même « La femme et l'avenir de l'homme » et jouer là-dessus. Bon. Et sinon, donc le résumé, c'est la science-fiction s'est peu à peu transformée grâce à ses autrices, ses lectrices et ses héroïnes. Dans quelle mesure cette féminisation a-t-elle modifié le genre ? La science-fiction a-t-elle un rôle à jouer pour la conscientisation féministe ? Conduit-elle à jeter le trouble dans l'identité sexuelle ? Et on reviendra peut-être sur cette dernière interrogation pour préciser le sens et la portée. Je voulais rajouter juste une dernière précision qui était que quand j'ai pensé à cette table ronde, j'ai fait un jeu de mots entre transformation et féminisation, mais la présence du préfixe trans est assez heureuse puisqu'elle suggère que ce n'est pas une problématique close uniquement repliée sur la question de l'identité féminine et qu'on peut y inclure toutes les questions d'identité, d'assignation et de non-assignation désirées qui peuvent concerner donc tous les gens. On n'est pas fermé sur dans cette table ronde et je pense qu'on aura l'occasion d'explorer d'autres choses. La seule chose, c'est on n'a qu'une heure et donc c'est centré sur une problématique. Alors pour parler de ça, j'ai la chance d'accueillir Anne-Sophie De Vries, qui est l'autrice de Biotaniste.
Bonjour.
Voilà, et c'est paru en 2021 chez ActuSF. Pour avoir conversé un peu avec toi, je crois que c'est un roman qui présente une solution assez radicale au problème de la masculinité toxique. Mais donc voilà, je serais heureux que tu nous en parles un peu. Voilà.
Pas tout de suite, peut-être.
Non, c'est juste une de mes attentes et vous n'êtes pas obligé de les suivre. Là, quand je vous présente, je vais vous dire à chaque fois, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir et vous n'êtes pas obligé de me de satisfaire cette attente. On a plein de choses à faire et on a du temps à réserver pour les échanges aussi avec le public. À côté de vous, Morgan Stankiewicz,
mais j'ai l'habitude.
Stankiewicz. Surtout que j'avais demandé avant. Vous avez été connu sous le nom de Dorian Lake auparavant, 2015-2019. Vous avez publié de nombreux romans, notamment Izulka, la majoresse. Et donc, depuis, je suppose, vous publiez sous votre nom. Et l'un des dernières choses que j'ai repérées qui soit paru, mais il y a plein de choses qui sont annoncées, c'est 10 minutes en 2020, qui est chez Noir d'Absinthe, qui est une maison d'édition dont vous êtes la fondatrice.
Tout à fait. Moi, j'interviens à la fois en tant qu'autrice de l'imaginaire, mais pas que, et éditrice, justement, d'une maison d'édition féministe. Donc, on a de quoi parler.
Et exactement. Là, je dirais que ma curiosité est piquée par le fait de vous entendre parler aussi dans cette problématique en tant qu'éditrice. Pas que, hein, mais ça me paraît un point intéressant et important. Et puis enfin Valérie Mangin, ça.
Bonjour.
Je pense que j'ai prononcé correctement.
Ça va, mais on m'appelle Manguin parfois, mais
Mangin,
c'est bien.
Voilà. Alors, vous êtes une ancienne élève de l'école des Chartes. Vous êtes très connue pour être la scénariste qui a repris la bande dessinée Alix et Alix Senator. D'ailleurs, en fait, c'est là une des choses. Ma curiosité se pique. Qu'est-ce que ça fait de reprendre Alix, qui est une bande dessinée si marquée par son auteur et un contexte, masculin peut-être écrasant, avec un refoulement. On y reviendra. Mais j'ai découvert aussi en travaillant sur table ronde que vous êtes l'autrice d'une nouvelle qui s'appelle Les Nouvelles Ève. Et je suis très content de l'apprendre et j'espère qu'on en dira un mot.
Avec plaisir, oui.
Et donc, pour commencer, je crois qu'il faut arriver directement là où ça fait un peu mal. C'est la science-fiction, c'est un genre qui, encore plus que la littérature générale, a été marqué par une domination masculine écrasante, non seulement par le fait qu'il y avait quasiment que des auteurs, voire que des auteurs, on ne va pas dire quasiment, mais il a fallu attendre pour que des femmes réussissent à avoir leur place dans ce genre ou soient reconnues à leur juste valeur, parce qu'on peut repérer quelques exceptions, et qui, dans ces thèmes qui étaient utilisés, faisaient aussi un usage immodéré de stéréotypes masculins et du coup aussi une place très très modeste et stéréotypée aux femmes dans la plupart de ses œuvres. Et on pourrait évoquer des grandes anciennes et faire preuve de reconnaissance, mais je crois que c'est plus intéressant de venir directement au point qui me préoccupe, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à votre sens, chacune de vous trois, en termes d'état des lieux et même d'état des luttes, on peut dire, dans le genre de la science-fiction, pour ce qui est de la place et de la représentation des femmes dans ce genre. Qui veut commencer ?
Ne me regardez pas comme ça. Je vais parler un peu pour la bande dessinée, puisque c'est ce que je pratique en général. On n'est pas très satisfait de l'état des lieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'autrices. Alors, quand j'ai commencé, j'étais chez Soleil, l'éditeur Soleil. On était 200 auteurs, dont deux autrices. Donc, vous voyez, c'était catastrophique. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes autrices qu'autrefois. Je crois qu'il y a à peu près 30% des auteurs de bande dessinée qui sont des autrices. Mais elles n'ont pas encore vraiment investi le genre de la science-fiction. C'est-à-dire qu'elles restent souvent dans des genres dits féminins, entre guillemets, qui sont l'autobiographie, la bande dessinée pour enfants, enfin, des choses très délicates. Je mets délicates entre guillemets, évidemment. Et pour ce qui est des choses du genre, comme la science-fiction, il y a encore, malheureusement, très peu d'autrices. Même s'il semble y avoir beaucoup de lectrices, beaucoup plus, en tout cas, qu'il y a 20 ans aussi, quand j'ai commencé. Mais malheureusement, côté auteur, ça reste... Et côté éditeur aussi. Je dis bien éditeur, parce que là, à ma connaissance, il n'y a pas d'éditrice de science-fiction en bande dessinée. Il y a parfois une éditrice qui, comme ça, par hasard, édite un livre de science-fiction, mais d'éditrice connue pour aimer la SF, vouloir en publier, je n'en vois pas comme ça.
Morgan ?
Alors, dans l'édition plus de romans, ça va être exactement la même chose, ce qui est assez effrayant. Et moi, je le vois aussi en tant qu'éditrice. Pour le coup, on publie de l'imaginaire chez Noir d'Absinthe et tous les imaginaires. Et on ne s'arrête pas à des genres spécifiques, mais on a quand même des auteurs de science-fiction. Et finalement, dans la maison d'édition, on est à 80-90% de femmes à peu près. Mais en science-fiction, c'est plutôt à 100% d'hommes si j'exclus les anthologies de nouvelles. Et ça veut dire qu'on n'a pas reçu beaucoup de textes initialement de femmes. Et là où c'est très différent de ce que tu décrivais à l'instant, Valérie, c'est que pourtant, les textes qui sont vraiment trash chez nous, ce sont des textes qui sont écrits par des autrices. Donc, nos autrices qu'on veut mettre en avant pour choquer, oui, ce sont des femmes. Ça ne va pas être nos textes de science-fiction qui sont très intéressants. On les aime beaucoup, sinon on ne les aurait pas publiés. Ils restent avec une démarche qui est féministe dans le sens où les personnages féminins sont bien représentés, ou en tout cas à minima. Et c'est du coup pas du tout une typologie de fond. Et on n'est pas du tout dans la délicatesse d'un côté et la violence de l'autre. C'est même plutôt l'inverse chez nous. Mais pourtant, dans le genre de la science-fiction, c'est moins représenté. Et on est une maison d'édition qui est très féminine. Il y a beaucoup de femmes dans la maison d'édition. Quand je vois chez des confrères ou des consoeurs la science-fiction, il y a quelques noms féminins qui ressortent. Ce sont souvent les mêmes. Je parle de l'imaginaire aujourd'hui, surtout les maisons d'édition indépendantes en France. Et globalement, quand on voit les maisons d'édition vraiment orientées science-fiction, ce sont surtout des hommes, des éditeurs hommes d'une certaine génération. Et c'est écrasant dans cette représentation.
Alors moi, j'ai écrit de la SF par hasard, donc je n'ai pas commencé à parler de l'histoire de la SF que je ne connais pas. Mais par contre, je pense qu'il y a une chose à dire qui est flagrante, c'est sur le sentiment de légitimité des femmes à oser envoyer des manuscrits, parce qu'elle considère qu'un manuscrit va être abouti aux alentours des 75-80% de travail, là où la tendance générale des hommes, c'est de se dire « pof, premier jet, j'envoie, c'est super, de toute façon, ça va passer ». Et donc, forcément, il va aussi y avoir un problème de représentation déjà dans les envois des textes. Et puis, pareil, je suppose, dans le métier, où des femmes vont avoir du mal à se sentir légitimes pour se, s'imposer en tant qu'éditrice. Donc voilà, ce sera ma contribution à cette question.
Bah, du coup, je peux peut-être te reprendre avec ma curiosité personnelle, Valérie, en te demandant, tu as eu à reprendre une série qui était considérée par beaucoup, pas par moi, mais comme culte, et elle avait un héritage, à mon avis, passif assez lourd. Et qu'est-ce que ça impliquait ? D'accord, tu as le droit d'avoir une autre relecture plus charitable du travail de Martin. Et donc voilà, est-ce que tu peux me dire quelle a été ta démarche à ce moment-là ?
Oui, donc j'ai repris donc, la série Alix de Jacques Martin en lui donnant une variation plus moderne, on va dire, qui s'appelle Alix Senator, où le héros de Jacques Martin, qui avait 20 ans dans sa série, en a plutôt 50 dans la mienne. Et je ne suis pas d'accord, je te trouve très dur avec Jacques Martin. Oui. Bon, évidemment, si j'ai repris sa série, c'est parce que j'adore son travail. Et effectivement, quand on parle Peplum, quand on parle Empire romain, quand on voit peut-être Alix, on pense à un univers extrêmement masculiniste. Et je m'inscris totalement en faux face à cette démarche, évidemment. Parce que pour moi, Alix et Enak sont les premiers héros non-binaires de la bande dessinée, ce qui était un exploit à l'époque. Martin a créé sa série en 1948. Et face à, je dirais, à Tintin, face à Blake et Mortimer, qui sont d'autres couples que Alix et Enak, Alix et Enak, justement, sont un vrai couple. Évidemment, il n'est jamais question de leur ouvertement, de leur relation sentimentale dans Alix, parce qu'à l'époque, évidemment, dans les publications pour la jeunesse, il était hors de question d'aborder des sujets liés à la sexualité. Mais malgré tout, Alix et Enak ont toujours été perçus comme un couple, et avec des personnalités, on va dire, je dirais presque non viriles, justement. Moi, petite fille, je me projetais vraiment facilement dans Alix et Enak. Pour moi, Alix, c'était un peu une blonde. Là aussi, je mets beaucoup de guillemets, mais c'était un personnage qui tenait autant de la jeune fille que du jeune homme. Et c'est pas du tout pour moi une série masculiniste, au contraire. Quoi.
D'accord. Du coup, tu n'as pas eu, quand tu l'as repris, tu n'as pas eu à modifier certaines choses. Je ne veux pas être désagréable, mais voilà, j'aurais pu avoir une autre interprétation. Voilà.
Oui, je vois pas trop, mais.
Non, voilà. Mais on...
Quand je l'ai repris, non, moi j'ai fait que. J'ai fait finalement, je suis allé plus loin dans le fait qu'Alix et Enak sont en couple, parce qu'on voit qu'ils ont même un fils commun.
D'accord.
Donc tout le monde a, c'est un peu après le mariage pour tous, l'adoption pour tous. Mais
t'as officialisé ça quand même, ouais. Bah oui, Morgane, je voulais revenir sur, donc toujours en prolongement de la première question, quelle expérience en tant qu'éditrice on a quand on reçoit des manuscrits de science-fiction, s'ils sont principalement ou exclusivement écrits par des hommes ? Est-ce que ça provoque une frustration ou une volonté de faire évoluer les choses ? Est-ce qu'on arrive à faire évoluer les auteurs ? Est-ce qu'on a un rôle là-dedans ?
Alors oui, bien sûr. J'ai un retour en tête qui était intéressant. C'était un manuscrit que j'avais reçu. C'était pas forcément de la science-fiction. C'était, enfin, ou très proche. Donc on n'était pas dans la science-fiction lointaine. C'était pas prospectif en quoi que ce soit. Mais malgré tout, c'était un élément qui était très marquant parce que mon comité de lecture était revenu vers moi en me disant qu'un manuscrit qu'on avait reçu manquait cruellement de femmes. C'est-à-dire que l'auteur avait écrit une quarantaine de personnages dans son roman, qui était très dense. Et dans ce roman, il y avait deux femmes, dont une qui était la femme enceinte d'un protagoniste, qui l'oubliait à mi-chemin. Donc c'est-à-dire que dans le roman, et la personne avait oublié qu'il y avait des femmes sur Terre. Et en pourcentage, je ne vais pas vous apprendre, c'est 52% de femmes. Il n'y avait aucune justification logique. Je peux comprendre quand un auteur va sortir l'argument « Oui, c'est du space opéra, ce sont des militaires dans l'espace. » Bon, c'est un peu fallacieux, mais admettons, je peux éventuellement l'entendre si ça justifie. Là, c'était sur Terre. C'était juste dans quelques années. Il n'y avait rien là-dessus. Et pour moi, c'est un des gros problèmes qu'on retrouve en science-fiction, en imaginaire et globalement en littérature. Ça ne se limite pas à la science-fiction. Malheureusement, la science-fiction, peut-être qu'elle l'exacerbe parce que justement, on attend de la science-fiction qu'elle aille plus loin et qu'elle se projette dans l'avenir et que justement, elle propose des nouvelles donnes sociales. Et exclure les femmes des nouvelles donnes sociales, je trouve ça un peu dommage tout de même. Et là, de voir ce manque de représentation où soit les femmes ne sont pas représentées, soit elles sont mal représentées. Je ne sais pas lequel est le pire, si probablement... Non, je ne sais pas. Et il y a vraiment ce complexe, souvent, de la femme qui est là pour soutenir le protagoniste, pour être là dans un rôle de soin, souvent, de douceur, d'accompagnement. Et finalement... un stéréotype. Et là, je parle de texte que j'ai reçu, c'était peut-être il y a 2 ans, en 2019. On ne parle pas de texte des années 70, des années 50. On parle de textes qui sont encore aujourd'hui, et par un auteur, j'ai échangé un peu avec lui par email, il s'est dit après, mais mince, j'ai vraiment oublié. Donc, c'était même pas le vieux mascu qui se dit oui. Non, c'était involontaire, c'était vraiment... c'était tellement intégré qu'il ne s'en était pas rendu compte. Il n'y avait aucune démarche volontaire de sa part, c'était pas malveillant, c'était juste, il avait oublié les femmes.
Alors je te remercie beaucoup pour ce témoignage sur l'invisibilisation, parce que ce qui me frappe dans la science-fiction, c'est qu'on peut se retrouver tout à fait confronté à des œuvres où on s'est habitué, on se trouve ça presque normal en effet. Il y a une absence des archétypes féminins positifs ou importants ou puissants qui sont là, à tel point que quand il y a un personnage féminin qui surnage dans une série, on a l'impression que c'est... notable, ou que quand on se trouve dans une série, je vais juste un exemple, c'est pas la peine qu'on commente forcément sur cet exemple-là, mais dans une uchronie comme For All Mankind, où à la fin il n'y a plus que des femmes pour diriger, on trouve ça bizarre. On trouve ça, la situation inverse d'une éventuelle visitation, elle paraît scandaleuse dans notre, en tout cas dans le mien, j'ai commencé à parler pour moi, mais j'ai l'impression que ça a quand même été une prise de position. Et du coup, je pense que ça me fait une transition vers Anne-Sophie, si tu peux nous parler de ta stratégie, parce que je pense que tu avais un peu vu ça.
Ça y est, là je bouge, j'ai un truc à dire. non, mais je pense que, voilà, trouver ça bizarre, c'est le début de la déconstruction. C'est la première chose, et c'est très important de trouver ça bizarre. Et du coup, je pense que c'est aussi un des rôles des littératures de l'imaginaire, c'est qu'on n'est pas dans le mainstream, on est à la marge, et souvent la marge évolue plus vite. Et donc, c'est à nous aussi de proposer, justement, des exemples de déconstruction. Et c'est vrai que ma méthode à moi a été assez radicale, c'est-à-dire que dans Biotaniste, qui est un univers post-apocalyptique où il n'y a plus rien et où les femmes sont les seules survivantes et sont les plus solides sur le plan physiologique, du coup, elles ont instauré un matriarcat dur et renversé complètement les codes de domination tels qu'on les vit aujourd'hui. Alors ça n'empêche pas que les femmes, même dans leur rôle dominant, subissent des pressions, notamment à la reproduction, mais on a cantonné les hommes qui sont plus fragiles à la cuisine et aux tâches du care et d'élevage des enfants, etc., au prétexte de les protéger et de conserver leur fragilité bien à l'abri d'autres prédatrices qui servent à agiter un chiffon rouge et qui évitent aux femmes en place de faire le travail. Donc oui, j'ai opéré un renversement miroir un peu craque dedans, mais le retour, c'est ça marche et ça fait réfléchir, donc je suis ravie.
Alors ça m'amène à un deuxième thème que je voulais apporter avec vous, qui est suggéré par le résumé, c'est dans quelle mesure la fiction, et la science-fiction en particulier, peut servir à une conscientisation féministe. Est-ce que quelles stratégies sont mises en œuvre ou sont à mettre en œuvre, quelles sont leurs éventuelles limites? Est-ce qu'il y a une, pour vous, des stratégies d'écriture qui correspondent à ça, ou est-ce que c'est une non-question, ce qui peut être aussi un point de vue, mais je ne crois pas, vu l'état des lieux dont on parle.
Décidément. stratégie, c'est beaucoup dire. Les deux choses qui me viennent comme ça à l'esprit, c'est qu'il y a peut-être deux grands axes dans lesquels partir. Le premier axe, c'est l'acte dystopique, où montrer, en les amplifiant un peu, toutes les dominations qu'on subit actuellement. Là, on pense immédiatement à La Servante Écarlate, évidemment, ou au Fred, puisqu'elle n'a même plus de nom, subit... J'imagine que vous connaissez tous ce roman et la série qui en est tirée. Et peut-être, donc là, évidemment, on voit tout de suite la domination subie par les femmes de manière extrêmement forte, extrêmement puissante et atroce. Et peut-être que l'autre stratégie qui serait possible à adopter, c'est un peu ce que tu as fait. J'allais appeler ça la version utopique. Enfin, bon, dans ton cas, c'est pas vraiment une utopie pour les hommes, mais en tout cas, montrer d'autres mondes, d'autres modèles de société qui sont possibles, où les hommes et les femmes sont à égalité, où en tout cas, cette domination est remise en cause, voire a disparu.
Ouais, alors ce que j'ai pas précisé, c'est que les femmes font pas mieux que les hommes et qu'à la fin, je prône l'équité, voire l'égalité.
Morgane.
Alors, une des choses qui est souvent faite et qui a beaucoup été faite pour donner de la place aux femmes en fiction, et notamment en imaginaire et en science-fiction, c'est de placer des personnages féminins, enfin, femmes, on va pas dire féminins, parce que pour le coup, justement, c'est l'inverse, et de leur donner un rôle d'homme, et finalement, de mettre un personnage en disant « c'est un personnage fort, une femme peut aussi être forte ». Et ça, je pense que c'est la pire approche possible pour, justement, faire de la représentation. J'ai beaucoup entendu que le premier film de Wonder Woman qui est sorti il y a quelques années était une œuvre féministe et que c'était génial. Et moi, j'ai vraiment détesté ce côté-là parce que c'est pas donner une super force à une femme qui suffit pour dire « Ah bah voilà, regardez, on est féministe, on fait quelque chose ». Oui, c'était une réalisatrice, mais malgré tout, j'ai trouvé que dans cette interprétation, on faisait juste donner des qualités masculines à une femme et du coup, en la chargeant de masculinité, ça devient un personnage intéressant et fort. Ce qui fait que tout ce qu'on attache au genre masculin comme stéréotype, si on les calque sur les femmes, ça devient des bons personnages. Et ça, il y a un gros souci là-dedans parce que déjà, il y a une séparation entre les qualités dites masculine et les qualités dites féminines. C'est déjà de la grosse connerie. Et parce que en quoi un genre est affublé de telle qualité ou de telle autre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça ne suffit pas de mettre un personnage dit fort pour faire de la représentation. Ce qu'il faut, c'est au contraire mettre des personnages féminins, parce qu'effectivement, c'est encore une fois 52% de l'humanité, voilà, c'est mathématique. Donc si on veut faire quelque chose de réaliste, on met 52% de l'humanité, à moins d'avoir vraiment un postulat de départ qui explique pourquoi ce n'est pas le cas. Et les personnages ont des failles, ce sont des personnages en fait. Et ce qu'il faut, c'est arrêter de simplement mettre une armure, mettre un projecteur pour montrer, tiens, cette femme est différente des autres femmes, donc elle est intéressante, et simplement creuser des personnages par le travail de l'empathie, ce qui demande de l'empathie de la part de l'auteur et de l'autrice. Du coup, en général, c'est quand même une des bonnes démarches à faire, c'est donner plus de place aussi aux autrices pour donner des représentations qui sont plus factuelles. Et pour moi, c'est là que se situe le gros du travail. Et ça vaut dans toutes les littératures. Ce n'est pas seulement quelque chose de science-fiction. C'est ce manque de représentation qui est terrible au final. Et on ne peut pas juste mal représenter pour changer la donne.
Moi, je pense qu'un des outils intéressants aussi, c'est justement de passer par l'empathie, par les corps, par l'identification. Et donc, clairement, utiliser un corps de femme pour mettre un homme à l'intérieur, en fait, ça ne sert pas à grand-chose si on veut faire avancer le sujet. Et je pense aussi qu'il ne faut pas être hyper manichéen. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme. Donc, il n'y a pas la vision masculinité toxique des héros masculins avec le menton carré et les gros biceps. Il y a aussi des hommes qui ne s'identifient pas là-dedans. Un truc qui m'a fait plaisir pour Biotaniste, c'est qu'on m'a dit... Enfin, des hommes m'ont dit « je ne me suis pas sentie exclue du discours féministe », et ça m'a fait hyper plaisir, parce que je me suis dit que j'avais vraiment réussi un truc, et en même temps, je ne m'y attendais pas. Et je crois qu'il faut rentrer dans le gras du gris, il faut aller dans la nuance entre le bien et le mal, le manichéisme, les genres, il faut arrêter de mettre les trucs dans des cases, que ce soit les personnes, que ce soit les genres littéraires, que ce soit les catégories sociales, enfin, il faut essayer d'apporter une vraie diversité.
Alors pour approfondir la question de la représentation et de son utilité des personnages féminins, je me disais qu'il y avait une certaine tension dans qui me semble inévitable, mais qui a une polarité sans doute féconde dans la, dans la revendication féministe, de représentation féminine, c'est que il peut y avoir légitimement des écrivaines qui, à travers leurs personnages, revendiquent précisément la valeur de valeur qu'elles identifient à un pôle féminin, avec un, des choses relativement traditionnelles comme assignation, mais qui ont envie d'assumer le fait qu'il y aurait une, un lien privilégié à la nature ou à, voilà, ou à des valeurs traditionnellement féminines, mais qui veulent les les réhabiliter, les rehausser dans la science-fiction. Quelqu'un comme Ursula Le Guin, qui a beaucoup travaillé par ailleurs pour la déconstruction dans d'autres de ses livres, aurait une idée de finalement, c'est parce que le genre s'est fondé sur les gestes héroïques et les combats comme genre, le genre épique, et n'a pas su développer des romans qui savent faire la part à ce qu'elle appelle l'écriture du panier, c'est-à-dire l'écriture en fait de moments d'existence qui sont tout aussi, voire plus signifiants pour dans une existence humaine, mais auxquels le genre, par son épicité, enfin, par le côté épique, ne donnait pas assez de place. Bien évidemment, il existe une autre tension qui peut aller jusqu'à dire qu'il faut faire des livres dans lesquels cette assignation est devenue tellement conventionnelle que de la polarité, que le genre du personnage devient un non-sujet. Je pense qu'on a eu un échange, Morgane, où tu disais que tu appréciais par exemple Ghost in the Shell pour le fait que le robot a des attributs féminins, mais qu'en réalité, dans le récit, c'était un non-sujet. Et donc, je voulais avoir votre idée sur cette tension interne. Est-ce que ça vous paraît pertinent, ou vous déconstruisez aussi ce que je viens de raconter? Ça ne me pose pas de problème.
Alors oui, effectivement, le côté du non-sujet, c'est intéressant. C'est que moi, en tant qu'autrice, ce que j'aime beaucoup, et là, vraiment, je parle de moi en tant qu'autrice, je me répète, c'est travailler sur des personnages. C'est-à-dire qu'un personnage n'est pas des étiquettes qu'on accole. C'est un personnage, n'est pas une femme, ou un homme, ou quelqu'un de racisé, ou pas du tout, ou un métier, ou quoi que ce soit. Quelqu'un, c'est... c'est quelqu'un, c'est une personne qui est construite, qui s'est construite, ça a pris du temps, qui est certes dans un cercle social, dans plusieurs, mais qui est tout en nuances et tout en profondeur. Et résumer des personnes à un archétype, ça ne fonctionne pas. Et faire de la fiction où on résume des personnages, on les essentialise avec une caractéristique, qu'elle soit genrée ou non, qu'elle soit biologique ou peu importe, c'est un non-sens, parce qu'une personne est tellement plus que ça. J'écris un guide d'écriture, et dans une formation, je faisais un parallèle sur comment écrire des personnages là-dessus et sur ce sujet-là. Et je faisais un exemple qui va vous parler. Bon, à l'époque, c'était encore Hollande qui était président, et Hollande et Merkel, ils ont quand même beaucoup plus à voir ensemble que Merkel et Buffy. Et pourtant, c'est pas du. Enfin, on pourrait se dire, ah non, femme, voilà. Ben non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'un personnage ? Un personnage, ce n'est pas un genre. Le genre fait partie de sa construction sociale. L'ignorer, surtout quand on est dans un contexte réaliste ou qui est en progression par rapport à l'identité d'aujourd'hui, encore dans du space opéra qui est complètement déconnecté, c'est pas forcément gênant. On peut tout réinventer dans quelque chose où c'est de la science-fiction prospective, on part à partir de maintenant pour se lancer dans le futur, ou la dystopie, on exacerbe un trait. Ce sont des choses qui font partie de la vie de tout le monde. Et donc, complètement l'oublier ne fonctionne pas non plus. Mais on peut le respecter sans pour autant oublier l'individu et l'individualité. Et ça, je trouve très dommage quand on se dit, bah oui, on va rajouter une femme pour faire... Bah non, ça marche pas comme ça. On se dit jamais, tiens, bah je vais rajouter un homme blanc ici, c'est important. On se ferait jamais la réflexion en tant qu'écrivain. Et là, pourquoi est-ce qu'on se la fait ? Pourquoi est-ce qu'on retourne vraiment là-dessus ? Et c'est pour ça que tu parles de non-sujet. C'est exactement ça. Je pense qu'un bon personnage est un personnage. C'est pas une étiquette, c'est une multitude d'étiquettes qui se mélangent et qui fusionnent.
Non. Bravo, j'ai pas grand-chose à rajouter.
Moi, je veux bien rajouter un truc, c'est que je pense que l'imaginaire est le lieu particulièrement bien choisi pour faire évoluer les choses, parce que pour faire changer les choses et les mentalités, il faut de l'imagination. Et que du coup, on est au bon endroit, je crois, pour essayer de faire infuser des futurs qui soient différents, plus inclusifs, plus moins mainstream. Et donc, je crois que Ursula Le Guin, Le Guin, je ne sais pas comment on disait, Le Guin. J'ai essayé de lire La main gauche de la nuit, et une des premières phrases qu'elle dit, c'est « La vérité est affaire d'imagination ». Et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est bon. Et c'est exactement ça, il faut amplifier, imaginer, pour ensuite, enfin, et décentrer pour ensuite revenir à des propositions concrètes. Mais l'imagination, c'est quand même le nerf du changement, je crois.
Oui, mais alors vous me faites la transition toute seule, parce que je me disais, bon, c'est un pont assez pratique, Le Guin, parce qu'avec La main gauche de la nuit, on tombe sur une fiction où, je vais spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est pas bien, il faut le lire, mais où on est sur une planète où les personnages sont sexués uniquement durant certaines périodes de l'année, et donc en fait, pendant la plupart du temps, on est face à des personnes non genrées. Alors le choix qu'elle avait fait dans l'écriture, c'est d'être éducative avec son lecteur à plusieurs niveaux. Donc on n'a pas une invention grammaticale, on est avec le masculin du neutre. Simplement, le personnage qu'on s'est habitué à cause de cette habitude grammaticale et par nos projections habituelles dans la science-fiction, ensuite ce personnage en fait se révèle d'être féminin, et donc ça change complètement le caractère des relations entre les personnages et de ce qu'on s'attendait à lire en même temps dans ce livre. De la même façon, le narrateur, on découvre à la page, je crois, 136, il est en train de se raser, qu'il a la peau noire, et on se rend compte que depuis le début, moi ça a marché, et je crois que ça marche en fait avec la plupart des lecteurs s'imaginent, on est en SF, donc le héros c'est un mâle blanc, quoi, et en fait non, il est Jesus, c'est juste au moment où il sera, et donc ce livre provoque cet effet d'éducation, je dirais, et surtout il nous mène sur une piste qui me paraît très intéressante, qui est une spécificité pour moi de la science-fiction, c'est qu'elle permet des expériences de pensée qui sont sans doute très efficaces pour sortir de modes de raisonnement binaires et des assignations traditionnelles. Et en plus de ça, elle ouvre un espace du coup de jeu où les identités, c'est même pas que les identités sont choisies autrement, c'est que les identités sont pas définitives, elles sont pas stables, elles peuvent être renégociées et renégociées dans un pacte de lecture avec le lecteur au fur et à mesure. Et donc il me semble intéressant avec vous qui êtes toutes trois autrices de voir qu'est-ce qui vous intéresse, peut-être pourquoi la science-fiction est ce genre où on a des choses à faire pour faire progresser les représentations. Qui veut commencer? Ah, Sophie, je pense que ça t'intéresse. Tu peux nous citer les œuvres qui te font... Je sais que Le Guin, moi, ça m'est personnel, mais toi, tu en as certainement des œuvres avec des expériences de pensée qui t'ont impressionné de ce point de vue.
De but en blanc, là, non. Ah.
Désolée, je voulais pas te...
Non, non, aucun souci, mais là, je cale. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire sur la question, je reprendrai peut-être la parole après.
Alors, moi, je peux avec des textes qui sont personnels, pour le coup. Alors j'ai fait une expérience qui était passionnante. J'ai écrit un texte de romance lesbienne, absolument rien à voir avec la science-fiction. Je sors du sujet, c'est terrible. Et voilà, donc j'avais écrit ce personnage, donc une mère au foyer qui y a une sextape qui ressort avec quelqu'un qui est devenu célébrité depuis. Ça fout sa vie en l'air. Bref, et j'ai fait l'exercice, c'est que à l'écriture, je savais que j'allais faire une version hétéro de ce même texte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé le texte pour changer le personnage, enfin pas l'héroïne, mais ses interactions. Donc du coup, c'est love interest, c'est passé de deux femmes à deux hommes. Ce qui fait que j'ai changé quelques accords dans mon texte. Grosso modo, j'ai changé 5% du livre, c'est-à-dire pas grand-chose. En tant que travail, c'était pas énorme, c'était plus pour ma correctrice que c'était la catastrophe. Mais c'était affolant de voir à quel point, en disant les mêmes phrases, le sens tout changeait. C'est-à-dire qu'un personnage qui pouvait paraître assez classique, la rockstar classique, gothique, le genre que j'aime bien, quoi, pour une femme, tout de suite, avec la même façon de parler, quand c'était un homme, on était dans un rapport très androgyne. Et inversement, j'avais une femme qui était un peu plus femme d'affaires, et quand c'était un homme, tout l'intérêt était perdu. Et ce qui fait qu'en ne changeant presque rien dans le texte, on se retrouve avec deux romans qui n'ont pas la même énergie, qui n'ont pas la même âme, alors que les interactions, les mots, j'ai changé vraiment même dans le fond pratiquement rien. Il y a quelques petites notions qui changent, mais c'est tout. Et c'est intéressant là, de voir là, tout le travail qu'il y a sur le travail social, à quel point tout cela est intégré et tout le travail de déconstruction des biais qu'il y a à faire sur le sujet pour pouvoir se projeter. Et là, on parle de romance contemporaine. On est dans le monde d'aujourd'hui. Certes, c'était aux États-Unis, mais c'est quelque chose qu'on... L'exercice de pensée n'est déjà pas très, très compliqué pour nous. Ce n'est pas le genre qui se prête au plus d'exercices de pensée sur un cadre social. Et pourtant, c'est déjà là. La science-fiction est là pour porter tout ça beaucoup plus loin. Mais avant de porter les choses beaucoup plus loin là-dessus, ça demande un vrai travail d'interrogation de ce qui se passe aujourd'hui, de l'écriture contemporaine, de la vie, en fait, et des rapports qui existent aujourd'hui. La science-fiction, à mon sens, est un genre qui parle, certes, au futur, mais d'aujourd'hui. Et tout ce que la science-fiction peut apporter, ce sont des interrogations sur ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Et toutes ces dynamiques, elles existent. Les interroger, on parlait de Handmaid's Tale tout à l'heure, c'est parfait, ça pousse un concept un peu plus loin, mais même pas tant que ça. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé sous Trump, Handmaid's Tale. On est à deux doigts de...
Pas tout à fait, tout de même, heureusement.
Pas tout à fait, mais ça aurait pu. En tout cas, les dynamiques étaient là. On l'a vraiment vu. Enfin, je m'intéresse un peu aux États-Unis aussi. Quand on voit dans certains États... On en est vraiment... Ça devient impossible. Et c'est plus quelque chose qui est complètement dans l'ordre de l'Uchronie. C'est impossible.
Oui, c'est impossible, effectivement. Oui.
Et... Vas-y. Je laisse la transition.
Ça fonctionne, oui. Non, moi, je pense qu'il y a un aspect aussi dont on n'a pas parlé, mais qui est flagrant. C'est de déconstruire la culture du viol dans les bouquins qu'on lit. C'est-à-dire que récemment, et je ne la nommerai pas parce que je n'ai pas envie de faire ça, j'ai lu un bouquin de fantasy avec, écrit par une autrice où l'héroïne est violée, et non pas se fait violer, mais est violée, j'insiste, par un démon du sexe qui est possédé, le pauvre chéri. Et c'est une scène de viol, et à aucun moment on remet en question ça. Et je trouve scandaleux que des bouquins comme ça soient publiés sans qu'il y ait à aucun moment une remise en cause de ce qui se passe ou qu'au moins ce soit dit, expliqué, déconstruit à un endroit. Et donc il y a d'une part ce que nous on essaye de faire en tant qu'autrice, peut-être pour faire avancer différentes causes et différentes discriminations, et ce qui d'autre part est continue à être publié, et ça passe, mais comme une couque, comme on dit en Belgique, une couque, voilà, bon, je vous laisserai chercher.
Je crois que le fait qu'elle soit publiée doit donner des occasions d'en discuter, justement.
Quoi. Mais oui.
Et j'allais dire qu'il faut malheureusement qu'elle continue à être publiée, parce que c'est des idées qui sont très présentes dans notre société. Ça, il faut surtout pas qu'on l'oublie. Quand je lis de la bande dessinée, malheureusement, j'en lis beaucoup qui portent des clichés de cet ordre-là. Et ça m'aide à me souvenir que malgré tout mon entourage qui est féministe, malgré tout ce que je peux penser, malgré le monde très, très ouvert dans lequel je vis, c'est pas ça la réalité, en fait. Ça me ramène un peu à ce qu'on vit concrètement. Et ça m'embêterait qu'on arrête de les publier. Alors, évidemment, il y en a beaucoup, et ça, c'est un problème. Mais je pense qu'on doit plutôt travailler justement sur la mentalité. On doit expliquer aux auteurs, aux autrices ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi il ne faudrait éventuellement pas le faire, plutôt que de ne pas le publier.
Oui, mais du coup, les lecteurs sont les dommages collatéraux, enfin les lectrices.
Oui, mais les lecteurs et les lectrices doivent être éduqués aussi. Je veux dire, c'est un problème d'éducation globale pour moi, plus que du fait d'interdire ou de permettre certaines publications.
Oui, mais jusqu'à leur offrir des représentations toxiques
Oui, puisqu'il faut en discuter avec eux, justement. Oui.
Ça, c'est le travail de l'édition, pour moi. C'est qu'on est aussi dans un milieu où l'édition, beaucoup, va chercher ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est beaucoup ça. Enfin, chez Noir d'Absinthe, on a créé une collection romance. On appelle ça, entre nous, de la contre-romance, parce que c'est féministe et c'est engagé. Et justement, on déconstruit tous ces biais-là à travers notre travail. Et on en vend très très peu, hein, quand on voit à côté la dark romance ou toutes ces littératures, et là ce que tu cites, ça ressemble beaucoup à de la dark romance, même si c'est souvent sur l'imaginaire, mais pas toujours, et peu importe, au final on se rend compte que le public il est plutôt là en demande de ces choses, mais très à l'ancienne en fait, très conservatrice, où le regard sur le corps des femmes est quelque chose de très masculin, y compris par des autrices. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'être une autrice pour déconstruire des biais. Les biais sont intégrés, les biais sexistes sont intégrés. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas sexiste. Et tout le travail qu'on peut faire dessus, il y a aussi une déconstruction à faire là.
Je dirais même que c'est presque pire, parce que je connais malheureusement pas mal d'autrices qui veulent en rajouter pour être des, ce qu'elle pensait peut-être des autrices à part entière, faire comme les hommes et reproduire les mêmes clichés. Donc il y a énormément, effectivement, beaucoup de biais qui sont portés par les femmes, voire pire. Mais encore une fois, je pense que c'est... effectivement, le public est à la recherche de choses effectivement très conservatrices et comme ça. Mais c'est ça le problème, je dirais. Et nous, notre travail en tant qu'autrice, c'est de lui proposer autre chose, de le faire venir vers autre chose. Mais on ne supprimera pas cette tendance du public à rechercher ça en arrêtant de publier le reste. Je ne pense pas. Je crois que c'est vraiment un travail d'éducation. Alors là, à long terme, évidemment, ça peut être très frustrant. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pour moi, la censure me semble vraiment une voie sans issue et un problème.
Je parlais absolument pas de censure. Je parlais du problème
d'arrêter de publier ces choses-là, quand même.
Oui, mais parce qu'il y a un boulot éditorial derrière. Je trouve qu'il y a une responsabilité éditoriale, d'une part. Et en plus, je parle d'une autrice qui a une grosse notoriété et qui, du coup, prend de la place aussi dans les étagères des librairies et donc est visible. Et il y a cet aspect-là aussi. Et ce qui m'a fait plaisir donc, dans l'exemple que je cite, c'est que c'est un blogueur qui a souligné cet aspect-là du bouquin qu'on a trouvé tous les deux extrêmement malsain. Et ça m'a fait plaisir que, voilà, qu'il n'y ait pas, pour finir sur la note positive, voilà, qu'il y ait aussi des hommes qui fassent attention à ces thématiques-là. Mais je ne parle pas de censure, je parle simplement de nouveau de visibilité ou d'invisibilisation de certaines tentatives. Et pour tout le monde, en fait, les éditeurs, les auteurs ou les autrices.
Ça y est, après, il y a le problème d'invisibilisation des autrices qui reste très fort. Tu disais qu'il y avait très peu d'autrices dans les années, avant les années 60. Je crois qu'on en a dénombré 200 qui avaient publié aux États-Unis entre 1920 et 1960. C'est quand même beaucoup. Mais on ne les connaît absolument pas. Elles ont été totalement invisibilisées. Alors, elles ont moins publié que les hommes. Elles ont moins pas devenues éditrices. Pour des tas de raisons, alors là, qui seraient très, très longues à décrire. Mais voilà, ces autrices, elles ont existé déjà. Elles ont été invisibilisées. C'est ça le gros problème, en fait. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait d'autres choses qui existent et qui soient très visibles, c'est que les autrices et les théâtres féministes ne soient pas plus visibles. C'est...
Tout à fait.
C'est passionnant. Ça pose la question des stratégies de... je pense qu'on ne va pas tarder à prendre les questions de la salle aussi, hein, pour faire participer, mais comme ça m'a beaucoup intéressé, j'ai du mal à résister comme modérateur de revenir à m'immiscer dans la conversation. Mais justement, il me semble qu'au-delà du rapport primaire à qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on ne représente pas, il y a des stratégies de subversion qui sont de prendre les gens parfois avec les allures du conservatisme ou les codes justement d'un certain type et d'arriver à détourner ou sur ton autrice, tout dépend. La scène de viol en elle-même n'est peut-être pas gênante. C'est évidemment sa mise en perspective dans le récit, le sens que lui donne l'héroïne ou que le sens que peut négocier le lecteur ou la lectrice qui pourrait en faire quelque chose, même d'un outil de pensée.
Si seulement.
Ouais, mais non, c'est ce que tu me dis. C'est pas
désolée,
du tout subversif.
C'est vraiment pas le
c'est
cas.
C'est uniquement cynique et naïf ou cynique. Et donc, du coup, pour ce travail d'accommodation dont tu parlais beaucoup, tout dans ce que vous avez dit, c'est des jeux sur des contrastes par rapport aux normes, c'est de s'écarter, choses comme ça. C'est le fait de coller à un code empêche finalement ce travail commun avec le lecteur d'essayer d'évoluer ensemble. C'est pas forcément une question, mais...
On refait une nouvelle table ronde alors.
Ouais, d'accord, on refait une table ronde. Bien. Je regarde, je vérifie, mais je crois en fait que j'ai parcouru tout ce que moi je voulais dont on parle. Mais en fait, je trouve que c'était bien et j'ai hâte de voir si la salle a des questions à vous poser. Plein. Ah oui, bien sûr.
Vous avez évoqué la surprise que vous avez eue dans La main gauche de la nuit tout à l'heure au niveau du personnage. Et je voulais savoir si vous aviez eu d'autres œuvres comme ça qui vous avaient marqué par quelque chose ou vraiment une révélation comme ça, surprise, qui vous a fait remettre en question en fait tout ce que vous aviez pu imaginer depuis 100, 150 pages et qui vous a marqué de ce fait-là par le chemin totalement différent en fait que ça prenait.
Dans Sanctuaire de Faulkner, qui n'est pas une œuvre de science-fiction, mais on a un personnage qu'on déteste vraiment, 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 vraiment beaucoup, qui a fait quelque chose d'horrible, un viol. Et à la fin, on a le dernier chapitre raconte sa vie avant. Et c'est un truc, c'est encore plus abominable une fois qu'on sait sa vie, parce qu'on se rend compte à quel point, quand voilà, si on sait d'où viennent les gens, on a un éclairage autrement que juste voilà. Voilà. Donc voilà, c'est mon exemple de surprise qui m'a traumatisé.
Moi, j'ai un exemple qui est intéressant, je pense, par rapport au féminisme et justement à la question du genre. C'est une autrice qui a publié chez nous une anthologie de nouvelles, et dans une de ces nouvelles, qui s'appelle Nietzsche, ta mère, que j'aime beaucoup, il y a ce protagoniste que l'on suit, qui a envie de devenir tueur en série, bref, voilà, qui raconte comment elle passe du début à la fin. Et quand j'en ai parlé avec l'autrice la première fois que je l'ai lue, je lui ai dit « Bah oui, ta personnage, elle est intéressante et tout, j'ai beaucoup aimé, etc. » Et là, elle me dit « Ah, donc pour toi, c'était une femme. » Et j'ai là « Comment ça ?» Bah, en fait, je n'ai pas dû... Enfin, ça, c'est sa réponse à elle. Elle n'avait pas du tout genré le personnage qui s'appelle Sam. Ça peut être Samantha comme Samuel, on s'en fiche. Et moi, j'avais projeté une femme dans ce personnage, mais elle a fait attention d'enlever la plupart des marqueurs. Donc c'est un personnage qui reste assez androgyne, mais qui pourrait être homme ou femme. Et au final, ça brouille totalement, ou non binaire de toute façon, peu importe, mais ça brouille complètement les pistes et ça marche super bien. Et pour le coup, je suis une lectrice qui suis attentive à tout ça. Je fais attention. Enfin, c'est arrivé l'an dernier. Ça fait partie de ce que je regarde vraiment avec attention. Et j'étais « Ah, chouette, c'est vraiment bien joué. » Et comme quoi, bah, le personnage avant tout. Donc ça, c'était une surprise très intéressante.
Je n'ai pas vraiment d'exemple de surprise comme ça qui me viennent à ce moment-là. Après, j'ai quand même eu des petites surprises. Je pensais en lisant le roman « Terra Ignota » de Ada Palmer, où le narrateur... On est dans un monde qui a dépassé le genre, où le genre n'existe plus, en quelque sorte. Mais malgré tout, le narrateur l'utilise pour, puisqu'il s'adresse à nous, en fait, et pour nous faciliter la tâche, continue à employer le genre. Alors, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'on voit déjà ses réactions à lui face à des personnes qui incarnent plus ou moins le genre féminin ou le genre masculin, comment il réagit, comment ça le trouble aussi de manière plus ou moins forte, comment ça nous trouble aussi en miroir. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que parfois, il désigne son interlocuteur comme un « il », qui le montre dans des habits masculins, des comportements stéréotypés masculins. Et puis ce personnage disparaît, on le retrouve 100 pages plus tard, et c'est une femme. C'est un elle, sans explication plutôt, qui a un comportement stéréotypé féminin, qui a des vêtements féminins. Et ce passage de l'un à l'autre, qui finalement enrichit les personnages, c'est des petites surprises, mais ça me trouble beaucoup, ça m'a beaucoup fait réfléchir à ces personnages justement.
Moi, j'aurais peut-être la réponse en sortant et je me dirais « Oh, merde !»
Bonjour. En fait, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que l'école, c'est la meilleure des façons de faire changer les choses ? Et la deuxième question, c'est... Est-ce que vous pensez... C'est une question un peu philosophique, mais est-ce que vous pensez que la société française est à un tournant de son histoire ?
Répète la fin de la question, s'il te plaît.
Oui, la fin de la question, on n'a pas bien compris.
La question, c'est est-ce que vous pensez que, j'ai dit une question un peu philosophique, est-ce que vous pensez que la société française est à un tournant de son histoire ?
Espérons-le, mais je ne suis pas très optimiste, malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup de tensions dans la société française et qu'on va malheureusement vers beaucoup de conservatisme. On voit, ne serait-ce que les sondages qui annoncent les prochaines élections, on voit toute la force de la droite, voire de l'extrême droite. Je crois que Zemmour peut être vu comme un ultra-conservateur, Marine Le Pen, c'est guère mieux. Et à deux, ils font déjà 30% de l'électorat. Donc on peut s'inquiéter sur une société qui, au moins pour le tiers d'entre elles, est tentée par des idées de ce type-là. Et après, je pense que l'école, effectivement, a un grand rôle à jouer dans l'éducation. Et peut-être qu'elle ne le joue pas assez, peut-être qu'il faudrait commencer déjà par former les professeurs aux thématiques qui nous intéressent aujourd'hui pour qu'ils puissent ensuite les transmettre à leurs élèves. Mais ce serait effectivement bien que les élèves, dès le plus jeune âge, soient mis en contact avec ces thématiques et réfléchissent et reconsidèrent déjà ce qu'ils sont, leur propre identité et celle de ceux qui les entourent. Oui.
Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre le point de bascule, il faut décider qu'on y est. Ça, c'est la première chose. La deuxième, au niveau de l'école, oui, bien sûr, mais il faudrait repenser... Tout le système de formation des profs, ces pauvres profs qui ne sont pas payés, sur qui on fait reposer la totalité de l'avenir du monde. Et donc, il faut leur donner les moyens, il faut leur donner les outils. il faut augmenter leur nombre. Et là, moi, je parle de mon point de vue de Française qui vit en Belgique, mais c'est exactement la même chose. Et donc, il ne faut aussi pas oublier que la France n'est pas le centre de l'univers et qu'il y a d'autres exemples à l'extérieur qui ont parfois bien marché. Et donc, aller s'inspirer de tout ce qui se passe dehors.
Merci, bonjour. Une question qui s'adresse un peu plus à l'éditrice Morgan Stankiewicz. Est-ce que vous recevez de plus en plus de récits qui concernent le transgenre en particulier ? Est-ce qu'il y a de la science-fiction qui se dessine dans le futur qui parle de ce, disons, des trans ou des choses comme ça ? Je pense, je fais une référence plus au livre de Robinson, 2312, où, comme le disait Valérie Mangin, on a des personnages qui changent de sexe et qui se retrouvent hommes, qui se retrouvent femmes. Est-ce que vous voyez une tendance de la science-fiction dans ce sens-là ?
Alors, je connais assez peu la science-fiction d'aujourd'hui là-dessus. Donc, je ne vais pas être la référence ultime sur la question. Je n'ai pas lu Becky Chambers, je n'ai pas lu Ada Palmer. Donc, là-dessus, sur en tout cas les références américaines, j'en ai pas beaucoup. Dans les textes qu'on a reçus, ben, de toute façon, on a reçu surtout de la science-fiction écrite par des hommes, avec certes des points de vue féministes, mais sur la question, très très peu. Au final, c'est plutôt moi qui me retrouve à en écrire et c'est plutôt les personnes concernées. Après, il y a une très bonne page Facebook qui est un site web, c'est Fantastic Queer, qui répondra beaucoup mieux que moi à cette question-là, parce que justement, il référence toute la littérature contemporaine qui est on voice, c'est-à-dire qui est portée par des personnes concernées, donc queer, hein, trans, LGBT, voilà, c'est non-binaire, etc. Et il y aura beaucoup plus de références là-dessus. Moi, en tant qu'éditrice, j'ai cette autrice qui m'envoie des choses qui interrogent le genre. J'en ai une autre qui m'a envoyé des textes plus sur le vampirisme, donc sur le côté plus 19e, mais qui interroge aussi beaucoup le genre. J'en ai créé aussi. Donc, ça existe. En science-fiction, j'en ai pas encore vu dans les textes que j'ai pu recevoir.
Oui, donc merci beaucoup pour vos échanges qui sont passionnants. Je voulais juste rebondir sur la question qui a été posée juste avant et faire une remarque très très courte. En fait, moi je suis prof de français, je connais un peu ces thématiques-là, j'essaye de les transmettre en fait aussi dans mes cours. Il y a de plus en plus de littérature jeunesse qui traite de ces questions et qui nous aide aussi. Et pour porter un petit message d'espoir quand même, les élèves sont très très intéressés, se posent énormément de questions là-dessus. Et cette année, en fait, ils ont choisi, moi je ne les ai pas du tout guidés, mais on devait faire un projet médiatique en fait, et ils ont choisi eux-mêmes le thème des genres et de la non-binarité. Je n'ai rien guidé du tout. Donc comme quoi, c'est pour apporter une petite touche d'optimisme, parce que il y a quelque chose qui se joue là quand même.
Là-dessus, personnellement, je suis beaucoup moins pessimiste que ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus polarisé. C'est-à-dire qu'on est en une époque où tout ce qui va être féminisme, queer, acceptation, est beaucoup plus visible que ça l'était il y a encore 10 ans. Moi, je vois la transidentité, je suis directement concernée. Dans l'espace grand public, c'est arrivé avec des vrais personnages seulement il y a une dizaine d'années. Et ça se développe de plus en plus. Et plus quelque chose se développe vers le progrès, plus c'est progressiste, plus les réactionnaires ont peur de voir la société qui change. Et donc réagissent, réactionnaires, de plus en plus fort. Donc on voit ce conservatisme et finalement cette polarité, la norme est de plus en plus éclatée. Certes, l'extrême droite progresse, mais ce sont aussi des thématiques qui sont de plus en plus présentes, dont on parle de plus en plus. Et pas seulement les personnes concernées, il y a aussi de plus en plus d'alliés. Donc c'est beaucoup plus complexe et nuancé que cette vision juste pessimiste. Je pense qu'il ne faut pas s'y arrêter. Il faut se battre, mais il faut aussi voir les progrès.
Tu as raison, j'étais trop pessimiste.
Oui, pareil, merci pour vos échanges. Je trouve intéressant qu'aux États-Unis, le sensitive reading, je crois, ça s'appelle, se développe. Ces personnes qui ont un regard après l'écriture sur ce qui a été écrit et qui notamment modifient des récits qui peuvent être racistes ou sexistes, etc. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de ça.
Moi, j'ai une opinion sur la question, si jamais. Ça a fait beaucoup débat, les sensitivity readers, mais je pense que voilà, les personnes conservateurs vont dire « Ah, mais au secours, ils modifient les manuscrits. » Non, c'est comme les gens qui disent aujourd'hui « On ne peut plus rien dire. » Non, tu dis ce que tu veux, mais t'assumes. Et donc, en fait, les sensitivity readers, ce n'est pas des censeurs. Ce sont des gens qui viennent avec une expertise de leur point de vue. Et donc, comme toujours, l'expertise, on la donne, et puis après, t'en fais ce que t'en veux. Et donc, moi, je pense que le discours, le haro sur les sensitivity readers, en mode, ils nous censurent et on peut plus rien dire, n'est peut-être pas la bonne approche pour initier une forme de diversité.
Elle mentionnait quelque chose de plus, qui est qu'il y a des éditions corrigées des œuvres qui sont mises au point.
Des éditions corrigées, quoi, comme Du Petit Nègre qui est devenu je ne sais plus quoi ? Ok.
Des fois, c'est dans le texte. Des fois, c'est pas juste.
Bah, moi, je pense que si c'est modifié, il faut prévenir. Enfin, c'est comme, je trouve que éditer Mein Kampf, c'est bien, mais il faut pas le censurer. Il faut pas enlever des bibliothèques les bouquins d'extrême droite ou les bouquins qui posent problème. Il faut les contextualiser, il faut expliquer, il faut les mettre en regard d'autres bouquins qui disent autre chose, et il faut confronter les points de vue. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. J'ai déjà trop monopolisé la parole.
Je suis assez d'accord avec toi. Concernant les sensitive readers, pour moi, c'est beaucoup de bruit pour rien, en quelque sorte. Je pense que c'est très bien que les œuvres soient lues et relues par, effectivement, des gens qui ont une expertise sur la question et qui peuvent donner un avis parfaitement fondé. Après, c'est juste pour amener plus de diversité. Je ne pense pas, effectivement, que ce soit pour censurer les œuvres. Après, c'est facile aussi quand on est... J'allais prononcer le mot woke, mais c'est un mot qui vient de l'extrême droite, et je crois qu'il y a une pensée très conservatrice qui saute un peu sur toutes les occasions pour dire ah là 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 là, on veut changer la civilisation, on veut nous détruire, on veut nous empêcher de dire ce qu'on veut. Et ces polémiques autour des sensitive readers, pour moi, c'est un peu ça en fait. C'est des polémiques qui sont générées parce que c'est facile de faire monter la sauce là-dessus, mais que ça n'a pas beaucoup de sens en fait. C'est beaucoup de bruit pour rien.
Bah, on sort les gens de leur zone de confort et ça fait mal, désolé.
Oui, voilà.
Alors moi, j'aime pas trop le principe d'avoir des personnes qui sont désignées pour ça et qui apposent un label « Ok, ce livre a été lu par des sensitive readers ». Et c'est une démarche très américaine pour, au final, se protéger légalement des attaques qui pourraient être faites par des communautés. Et donc, la démarche, comme ça, d'avoir ce label, non, mais vous inquiétez pas, ça a été lu, je suis pas forcément pour moi, c'est le travail de l'auteur de proposer et de faire de la recherche sur son texte pour qu'il soit le plus fiable possible. Et donc, oui, c'est à l'auteur d'aller, s'il parle de thématiques qu'il ne connaît pas, de s'approcher de personnes qui sont concernées, d'associations et tout. C'est une démarche de l'auteur. Mais cette vision très américaine d'avoir ce petit label de protection, je suis beaucoup moins pour. Et un éditeur qui va faire appel à quelqu'un pour vérifier si le texte, j'ai pas forcément de soucis avec ça, mais le fait d'en faire une nécessité et d'en faire ce côté labellisé, oui, bah là, c'est une vision, encore une fois, très normée. Et qu'est-ce qu'un sensitivity reader ? Est-ce que c'est... Qui est là pour représenter toute une communauté ? Les communautés sont très vastes. Moi, il y a des choses que je vais peut-être lire sur la transidentité. Je vais dire, oui, bah ça va, ou là, ça me choque. Et quelqu'un d'autre va dire, ah non, mais là, ça me trigger et c'est pas possible. Et qui... c'est compliqué, cette notion-là. Donc, je pense que le mieux, c'est d'avoir le plus de recherches possible, une approche la plus complète et la plus... en harmonie possible avec le message qu'on veut transmettre, mais pas forcément de le régler comme ça.
J'ai répondu trop vite. Je parlais évidemment du travail de l'auteur vis-à-vis de son propre texte et pas du tout d'un regard éditorial par-dessus. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Morgan.
Bon, bah, c'était passionnant. Vous vous en êtes tous rendu compte. Malheureusement, on est arrivé au bout et on remercie les trois autrices de nous parler.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie. We can face any future. Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.